les eaux fleurissent. Ris, entre la vie est un délice. Ris, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Les éclats de lire.
Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs.
Quel enfant étiez-vous ?
Anxieux.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
Le vieil homme et la mère.
Quel livre vous a bouleversé ?
Moss.
Quel livre auriez-vous voulu écrire ou illustrer vous-même ?
Des cerfs solitaires.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Un oiseau.
Je suis...
Fred Bernard.
Bonjour Fred Bernard, et avec vous, on va parler aujourd'hui de la nature, des jardins, de l'écologie, un peu tout ça. C'est quelque chose qui vous intéressait déjà tout petit, non, l'observation de la nature ?
Ah oui, surtout enfin, grâce à mon père notamment. Donc oui, mais j'ai grandi à la campagne.
Voilà, ça aide. C'est
important de le préciser.
Vous avez grandi à la campagne et vous êtes retourné ensuite quand vous avez eu l'occasion ?
Oui, tard, hein, à 40 et quelques années.
Ah oui, il était temps.
Ouais, ouais.
Mais du coup, quand vous étiez enfant, vous étiez tout le temps dehors ou ça vous intéressait déjà de dessiner l'extérieur comme ça, les petites bêtes, les fleurs ?
Oui, carrément. Bah, à dire vrai, j'évitais même de dessiner les êtres humains parce que j'y arrivais pas. Donc je dessinais surtout des animaux et la nature, en effet. Ouais. Et des châteaux, des choses comme ça.
Donc vous avez fait les Beaux-Arts, cette vocation du dessin, elle vient d'où ?
Je suis allé aux Beaux-Arts parce que j'ai abandonné prépa veto en vrai. Donc je me destinais plutôt aux sciences, mais j'ai laissé tomber pour aller aux Beaux-Arts. Parce qu'en fait, j'étais tendé par les deux métiers, mais il y en a un qui faisait plaisir à mes parents, l'autre beaucoup moins, quoi. Donc c'est pour ça que je
donc vétérinaire, ça leur faisait plaisir ?
Ouais.
Vous avez commencé par ça, mais finalement, ça a pas pris.
Non. Mais j'allais au cours du soir des Beaux-Arts aussi, déjà. Enfin, je faisais ça comme je faisais du tir à l'arc. J'avoue que même moi, j'ai mis longtemps à me faire à l'idée que je pouvais faire ça. Parce que personne dans mon entourage, de près ou de loin, faisait un métier lié à l'édition, quoi. En revanche, je connaissais les livres. Ma mère était bibliothécaire, mais...
Ah, tout de même.
Mais oui, enfin, c'était pas un vrai métier.
Et alors, quand est-ce que vous êtes rendu compte que ça y est, vous exerciez ce métier d'auteur ?
C'est les copains, notamment, qui me disaient que je pourrais y arriver éventuellement. Si la famille me rassurait pas beaucoup, en revanche, mes amis me disaient que je devrais faire ça, moi, en fait. Mais vu de loin, ça semble facile à prendre comme décision, mais dans l'instant, c'était compliqué. Ça me faisait peur, ouais.
Et alors, ouais. Il a fallu plusieurs projets pour concrétiser cette vocation ?
Ouais, il a fallu beaucoup de rencontres. Bah, les profs, après, aux Beaux-Arts, hein, qui étaient, eux, très motivants. Et puis le fait d'écrire et de dessiner, je me suis rendu compte que c'était un avantage, puisqu'on n'était pas si nombreux à faire les deux. Et donc, moi, assez vite, j'ai commencé à faire des livres, d'abord pour les enfants, hein, je voulais m'adresser d'abord à eux. Et donc, tout naturellement, le tout premier livre que j'avais réalisé avec François Roca, qui faisait les mêmes études que moi, on avait écrit ensemble La Reine des fourmis a disparu, et qui parlait de déforestation,
ouais.
Et qui est toujours étudié dans les écoles.
Que j'ai sous
après.
Les yeux, justement, c'est le seul album que j'ai
pris. Oui.
C'est marrant, je savais que c'était un des tout premiers, mais pas le premier.
Ouais, ouais, il a beaucoup compté. Le premier compte toujours beaucoup.
Ouais, La Reine des fourmis a disparu, on le trouve chez Albin Michel Jeunesse, et donc c'est une très belle histoire, magnifiquement illustrée, comme toujours, par François Roca.
Ouais, merci pour lui.
Ouais, très bien écrite par vous-même.
Oui.
On peut présenter un peu cet album ?
Oui, c'est une enquête chez les fourmis, puisque comme le titre l'indique, La Reine des fourmis a disparu. Et donc ils ont un seul indice pour retrouver la reine, c'est un poil qu'ils ont retrouvé dans la chambre royale, on peut dire. Et il pense d'abord que c'est un animal local qui a dû prendre la reine. Et en fait, pas du tout. C'est un poil de barbe d'un scientifique qui fait des prélèvements dans la nature. Donc, évidemment qu'on a la solution qu'à la fin. Mais oui, on passe d'animaux en animaux. C'est une espèce de quête initiatique pour les fourmis qui ne sont jamais beaucoup éloignées de la fourmilière. Et c'est vraiment le genre d'histoire que moi, j'adorais enfant, en fait.
Avec un duo de détective très drôle. L'un qui est très expérimenté et l'autre qui débute, mais qui a plein de connaissances. On ne sait pas d'où il les sort.
Oui, du coup, il prend un peu son assistant de haut au début. Non, mais ça, moi, ça me... Enfin, voilà, c'est assez humoristique, mais le fond, pas tant que ça, quoi. Le fond, pas tant que ça.
Et ça parle donc de déforestation. Donc déjà, un message écologique dans les premiers albums pour la jeunesse que vous faites.
En filigrane, presque dans tous, j'aborde le sujet. Je pourrais préciser que moi, que mon père, il est... il avait voté René Dumont en 1974, quand j'étais petit. Donc la première fois qu'on pouvait voter écologique. Mais c'était pas du tout un baba cool. Hein. Il a voté Giscard d'Estaing en deuxième tour. Et c'était quelqu'un qui était chef d'entreprise et plutôt de droite, on va dire. Mais super proche de la nature, les champignons, la pêche. Tous les problèmes de planète finie, tout ça. Je peux dire que moi, j'ai grandi là-dedans.
C'est pas des notions que vous avez découvertes à l'âge adulte, quoi. Vous avez toujours été sensibilisé à l'environnement.
Exactement.
D'accord.
Ce qui fait que quand je parle avec des personnes qui s'inquiètent de tout ça depuis, mettons, 10-20 ans,
oui.
Et qui paniquent un peu. alors moi, je suis pas spécialement rassuré, mais en tout cas, maintenant, tout le monde en parle tout le temps. Ça fait la coupe de toutes les magazines. Donc moi, je suis quand même soulagé que ça soit... qu'on peut plus faire l'impasse, en fait. Moi j'étais là où j'étais le plus désespéré, moi, c'est quand on était trois copains à parler de ça entre nous, quoi. Aujourd'hui, moi, je me réjouis quand même que ce soit... Enfin, c'est le sujet, quand même. Le grand sujet.
Ouais.
Non pas que c'est pas la... On n'a pas encore vraiment de solution, mais en tout cas, ça, on peut commencer à prendre le problème après le corps que quand tout le monde en parle, quoi.
Ouais. Alors, vous disiez que, que vous faisiez les beaux-arts, qu'il y avait toujours eu un attrait pour le dessin, mais finalement, vous êtes auteur et un très bon auteur de textes pour la jeunesse et pas que. Comment c'est venu ce rapport au texte ?
Alors, le rapport au texte, moi, j'ai vraiment grandi au milieu des livres, hein. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Ma mère, déjà, me laissait pas tellement le choix. Même dans les périodes où je levais un petit peu le pied, en tant que bibliothécaire, je vais pas dire qu'elle m'a forcé à lire, mais en tout cas, elle était très maligne pour me mettre dans les mains des livres dès qu'il y a un film qui passait à la télévision, et qui existait d'abord en livre, et c'était souvent le cas. Hein. Enfin, je me souviens notamment de La planète des singes ou Guillaume et la mer, des films comme ça qui passaient à la télévision. Et si elle voyait que j'adorais, le lendemain ou le surlendemain, elle arrivait avec le roman d'origine.
Oh.
En me disant, tu sais, c'est d'abord un livre.
Comme Donc vous avez c'était... toujours eu des histoires et après vous avez eu l'envie d'en écrire à votre tour.
Ouais, et en étant un peu stressé aussi de ça, parce que... faut oser le faire. On m'a fait lire que des grands auteurs, hein, grosso modo. Et j'avoue que c'est aussi des livres mauvais qui m'ont donné envie d'écrire. C'est-à-dire que si j'avais lu des chefs-d'œuvre, j'aurais jamais osé.
Pour faire mieux.
Oui, en fait, quand on lit un livre en disant « Ah, celui-là, j'aurais presque pu l'écrire », et ben on fait un pas en avant, en fait. Il n'y a pas que les grands livres qui nous aident à avancer, je trouve. Parce que c'est intimidant. Je trouve que c'est intimidant d'avoir un livre qui paraît, de travailler avec des... maintenant, je m'y suis fait, mais au début, déjà, quand on a fait 5 ans d'études de dessin, c'est pas si simple de se dire « mais j'écris aussi ». C'est un cheminement personnel, en fait, d'accepter de ce qu'on est capable de faire, ses limites aussi, hein. Mais moi, je différencie même plus vraiment le dessin de l'écriture. Enfin, c'est deux façons de raconter des histoires, et puis parfois, je m'associe avec un dessinateur. Parfois, c'est moi qui illustre des textes que je n'ai pas écrits.
Et souvent, vous vous associez avec François Rocca aussi. Ça, c'est une collaboration de tout temps qui perdure encore aujourd'hui.
C'est mon plus vieil ami et mon plus vieux compère. Je crois qu'on a fait 25 livres en 30 ans ensemble. Donc. Il a un dessin qui est très différent du mien. C'est de la peinture, on peut dire. Il peint à l'huile. Et en fait, il y a une espèce de réalisme qui permet aussi de faire passer des histoires qui sont très romanesques, très ancrées dans le réel. L'humour peut être présent, mais c'est pas ce qui ressort surtout de son dessin, c'est son réalisme, quoi, les ambiances, la lumière, les compositions comme ça, un peu théâtrales parfois. Et ça nous a permis de faire des livres un peu de tout acabit.
Oui.
Il est très doué.
Parce que vous, dans vos histoires, on est toujours un peu à la frontière entre le mythe, le conte, le réalisme. Et on fait toujours un petit pas du côté un peu de l'extraordinaire quelque part, ou de l'incroyable.
Ouais, je m'aventure. Moi, je suis super fan d'Umberto Eco, qui aimait à la fois la grande littérature, les livres anciens et les comics américains. C'est assez rare, hein. Et en fait, il s'interdisait rien en tant que lecteur. Et bon, c'est un génie, hein, lui, en revanche. Mais c'est ce genre d'auteur, moi, qui m'ont autorisé à traiter un peu tout. Tous ces livres-là, j'avais commencé à dessiner mon jardin, justement, entre guillemets, pour me détendre entre des livres.
Ouais, et ça, c'était justement pas quelque chose que... C'était vos éditeurs, ou vos éditrices d'ailleurs, qui vous ont dit, mais ça, on va le publier.
Ouais, alors oui, c'est vraiment venu d'elle, parce que moi je faisais ça pour mon fils, les copains, enfin c'était surtout pour mon fils et pour moi aussi, dans le sens où c'est un espèce de journal du jardin. Au départ, c'était moi pour me souvenir de qui avait, enfin c'est un petit peu, comment dire, c'était à la fois pour me souvenir de ce qu'il y avait avant que j'arrive, parce que moi j'ai mis les pieds dans ce jardin en 99, donc il y a un moment déjà. C'était pour se souvenir, parce qu'il était vraiment, non pas en piteux état, il y avait beaucoup de vie, puisqu'il n'y avait que des ronces et des orties, donc c'était même un refuge. Mais en revanche, j'ai découvert petit à petit qu'il y a plein de choses qui étaient plantées là de longue date et qui sont réapparues quand la lumière est revenue, en fait, quand j'ai fait un peu le ménage. Et puis j'ai gardé le maximum de plantes, et donc je voulais, en fait, c'était un peu le journal intime du jardin, et je voulais que mon fils sache un peu nommer les choses.
Parce que vous, justement, vous savez très bien les nommer dans ce carnet d'un jardinier amoureux du vivant. Vous allez dessiner une espèce d'oiseau en donnant son nom latin, pareil pour les plantes. Vous êtes très savant. C'est des connaissances que vous avez déjà, ou alors vous faites des recherches
Alors, les noms latins, j'en connais quelques-uns. Sus crofa, c'est sanglier. Non, je ne les connais pas tous. Mais il y en a certains que je connais parce qu'ils m'amusent depuis toujours. Il y a vraiment les noms latins qui sont parfois cocasses.
Et en dehors des noms latins, il y a des connaissances très précises sur le fonctionnement, sur le mode de vie de l'animal ou de la plante.
Ah ouais, oui, moi ça me passionne depuis tout petit. Et puis surtout, mon père qui était désespéré de voir tout ce qui avait disparu par rapport à sa jeunesse, à lui. Moi, je peux faire la même chose avec mon fils. C'est-à-dire qu'en termes de batraciens, insectes et tout ça, il y en a quand même beaucoup moins. Donc mon père me disait déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup, quand moi je trouvais qu'il y en avait énormément. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, et en fait, il y en a encore beaucoup moins aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, je voulais témoigner de ça aussi, parce qu'il y a quand même aussi quelques insectes qui reviennent avec quelques efforts consentis, que ce soit l'ONF, les vignerons. Moi, j'habite en Bourgogne. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Enfin, d'ailleurs, si on voit que ça, on arrête tout. mais il y a des choses qui, il y a quand même des choses qui reviennent petit à petit, en laissant du bois mort dans les forêts. Tout était nettoyé avant. On va revenir des insectes comme les rhinocéros, les lucanes cerfs-volants, qui étaient ultra rares, voire moi, les rhinocéros, je n'avais jamais vu de ma vie. Hein. Et on en revoit un peu. Bon. Les batraciens, c'est la catastrophe.
C'est un livre très vraiment... engagé aussi. On a vos pensées. Par petites touches. Où vous regrettez la disparition d'un insecte, où vous admirez de le revoir revenir.
Ouais.
Et ces dessins et ces aquarelles, ces croquis de votre jardin ou de la nature qui vous environne, ils sont entrecoupés de pensées de philosophes. Je ne sais pas si c'est vos lectures en cours ou les réflexions qui germent en ce moment dans votre esprit.
Exactement, c'est ce que je suis en train de lire au moment où je fais les carnets. Et dans le premier volume, c'était plutôt des réflexions d'écrivains, de poétesses, de romanciers. Alors c'était aussi, moi, ma façon de faire lire des extraits à mon fils. C'est un peu, je continue la tradition familiale, on va dire, d'essayer de pousser un peu à la lecture. Et au bout d'un moment, j'en retrouve de temps en temps, mais j'avais fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais déjà écrit dans des cahiers de réflexion ou de poésie qui faisait allusion soit à la nature en général, le vivant, ou les jardins en particulier. Et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre des extraits de livres que mes parents m'ont fait lire, quoi, Jean-Marie Pelt ou Francis Allais, enfin sur la botanique notamment. Et puis j'étais abonné à la Hulotte, bien sûr. Enfin, je le suis toujours.
Oui.
Et ça a quand même marqué à vie. Donc j'ai gardé d'ailleurs cet esprit-là qui est un petit peu... je fais quand même des blagounettes régulièrement.
Oui, vous faites parler les oiseaux par exemple, ou les insectes, ou les plantes même. Le yucca, ouais, qui grandit de 10 cm par jour.
Ouais. Il ne cesse de... il parle pas, mais il ne cesse de communiquer entre eux tous.
Ouais.
C'est flagrant, quoi. Ils ont quand même un libre arbitre. Quand on vit au milieu du jardin, comme je le vis presque, parce que on le voit par toutes les fenêtres de la maison, et les branches touchent presque les fenêtres, donc on est dedans, quoi. Et l'été, d'ailleurs, tout rentre. Et je vois bien la petite vie qu'ils ont, eux, quoi, les oiseaux, les insectes, on voit ceux qui sont plus malins que les autres.
Ouais.
Oui.
Bon, en général, vous dites qu'ils sont tous très malins.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Vous êtes... Ils n'ont pas tous la même vision.
Vous avez beaucoup d'admiration.
Les insectes, quand ils rentrent dans les maisons par les portes ouvertes, il y en a certains, comme les grandes libellules ou les,
ah, oui,
les frelons, ils mettent pas longtemps à savoir quelle fenêtre est ouverte et ils s'en vont direct.
Et il y a les autres qui se cognent partout.
Ouais, les autres, ils sont un peu plus ballots. Ouais, c'est rigolo. Mais oui. Enfin, moi, depuis tout petit, moi, ça me détend au plus haut point d'avoir cette proximité avec la nature, et ça me manquait à fond. Enfin, quand j'habitais à Lyon, puis ensuite à Paris, je passais beaucoup de temps, même dans les plates-bandes, à regarder dans les parcs, les squares, tous les petits détails, quoi.
Et alors, ces dessins, vous les avez faits pour vous? Peut-être pour votre, ouais, fils, votre famille, vos amis. Vous n'aviez pas prévu de les publier et que ça rencontre un tel succès. Ça vous fait quoi, justement, ce succès un petit peu médiatique qu'il y a autour de ces carnets?
Ah bah, ça m'a rassuré au plus haut point.
Ah oui.
Parce que déjà... Non, puis ça
vous a rassuré sur vous ou sur le sujet qui préoccupe beaucoup de personnes?
Bah alors, sur moi, disons que déjà, moi, quand ils m'ont dit on va l'éditer, je dis mais... j'ai écrit ça, moi, comme j'écris une liste de courses. Enfin, c'était pas appliqué du tout. C'était pas appliqué. Et je parle pas des fautes, hein. Je parle juste de la typo, quoi, de ces manuscrits. Et en fait, on a fait des facsimilés. Enfin, les éditrices m'ont dit, nous, on arrive à les lire, les gens arriveront à lire aussi. Donc, ça, j'ai eu besoin d'être rassuré sur ce point. Et puis ensuite, ce qui m'a rassuré, c'est qu'on est quand même de plus en plus nombreux à avoir envie de passer du temps avec ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant, quoi, depuis 10 ans, on va dire.
Oui.
Mais parce que moi, quand je vais dans des écoles, que ce soit en race campagne ou en grande banlieue ou peu importe, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui savent faire la différence entre un pinson et un moineau, un noisetier, s'il n'y a pas les fruits dessus. Et ça, évidemment, si on sait pas nommer les choses, on va pas s'inquiéter qu'elles soient plus là. Enfin, c'est indispensable, c'est aussi important que 2 et 2 font 4, en fait, de savoir nommer ce qui nous entoure. C'est quand même, sinon, on peut pas avoir d'empathie, on peut pas savoir si les choses changent. Je suis content aussi que ce soit pas que des vieilles dames qui soient plongées dans le mur. J'avais l'impression que je me suis dit, ça va intéresser que des gens qui jardinent.
Alors peut-être que si ce livre a eu un succès, c'est parce que vous êtes déjà très connu aussi.
Oui et non, parce que en fait, les gens qui me suivent en jeunesse ne savent pas forcément que je fais de la BD, l'inverse est vrai,
ah,
c'est pareil.
Ouais.
Et franchement, c'est des livres qui sont sortis au rayon jardinage, où je ne suis pas repéré du tout. Donc je pense qu'il y a, d'accord, vraiment beaucoup de gens qui ne savent absolument pas ce que je fais par ailleurs.
Ça fait une semaine que je lis, c'est un peu plus de 200 pages là, et c'est vrai que ça donne envie d'être dans son jardin et d'implanter plein de choses.
Ah bah, je ferais que ça, moi. Et j'ai pas de potager, hein, donc c'est juste du... J'ai pas le temps pour ça. J'ai vraiment le strict minimum. Mais
Oui, parce qu'on dirait que vous passez votre vie dans le jardin, mais vous avez quand même du travail derrière.
Bah oui, c'est ça, en fait, c'est un loisir, hein, mais j'y passe au moins une heure, ouais, oui, je pense que j'y passe au moins une heure par jour, l'été plus que le plein hiver, mais même, oui. Ben, c'est un peu mon sport, hein, aussi, je pourrais dire, c'est mon activité physique.
Et tous les jours, vous allez dessiner ce qui se passe autour de vous?
Ben, maintenant que j'ai un peu fait parce que dans le premier opus, c'était l'inventaire, on pourrait dire, de tout ce qui s'y trouvait, maintenant, je raconte les petits accidents ou les petites découvertes que j'y fais. Donc, je dois faire encore 4 ou 5, 6 dessins, peut-être 10 par mois, grand maximum.
Mmh, ouais, quand même.
Depuis, j'ai commencé en 2018, je crois, janvier. Donc, je ne vais pas réexpliquer d'où vient le nom du...
D'accord.
Donc, c'est fait, ça. Donc, je continue... Albin Michel va peut-être en éditer un troisième, mais de toute façon, moi, j'ai de quoi en faire déjà 4 ou 5, parce que c'est une sélection qui est faite dans mes carnets d'origine, donc on met pas tout. Loin,
d'accord,
de là, on en a... Enfin, il y en a 200 par livre, et moi, je dois en avoir à peu près pas loin de 1000, hein, je pense, déjà. Ça, j'avoue que pour le choix, même si je peux en imposer certains, je laisse la main aux éditrices, parce que moi, j'ai trop le nez dedans. En fait. Je connais... Bon, moi, déjà, je mettrais tout. Je mettrais tout, il serait deux fois plus épais et puis il coûterait trop cher. Donc, puis on me dirait, mais non, mais ça, c'est trop ceci, trop cela. Moi, j'avoue que je fais quand même confiance aux éditeurs sur ce genre de livre.
C'est leur travail et puis après tout, c'est leur idée de publier ça aussi.
Voilà, ils ont un œil extérieur que j'ai pas, moi.
Ouais.
Moi, si je les ai faits, c'est parce que j'avais envie de les faire. Il y en a certains que je trouve complètement loupés et elles me disent, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Et à l'inverse, il y en a où je suis content de moi, puis ils disent, ouais, mais ça raconte pas grand-chose.
Ça vous donne envie de les reprendre et de les retravailler pour une autre publication ?
Ah, mais je les retouche, hein, d'ailleurs, souvent. Ah. Parce que je mets souvent à voir page tant de tel volume. Et donc, j'ai rajouté certains... Ben, par exemple, j'ai trouvé parfois des infos sur une plante ou un insecte que j'ai dessiné il y a quelques années. Et donc, je vais rajouter ces infos-là à la page. Ouais, donc, ce qui est édité, là, il y a certaines pages qui ne sont plus les mêmes dans les carnets d'origine. Ouais.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Fred Bernard. C'est déjà la fin de cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Donc, on a parlé d'un carnet d'un jardinier amoureux du vivant. C'est magnifique, c'est vraiment des portes ouvertes sur l'évasion dans le jardin, ça donne très envie de s'y mettre. Et c'est une super lecture, un super moment à passer. Merci beaucoup Fred Bernard,
merci
et
beaucoup.
À très bientôt.
Merci, à bientôt, merci.
Les éclats de lire, une émission de radio. Le troisième mercredi du mois à 15h30, rediffusé le dimanche qui suit à 11h. Les éclats de lire. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan.